BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Oui, on est à Bruxelles, précisément entre Washington et Moscou. Quand on est entre Washington et Moscou aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est compliqué comme question. Bonjour Jérôme Lavrieux.
Bonjour.
Eurodéputé PPE, Parti Populaire Européen. Vous étiez notre invité au lendemain de l'élection de Donald Trump, c'était en novembre. Vous nous aviez dit sur ce plateau, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple, on répond à l'America First de Trump par un Europa First. C'est ça qu'on fait?
Oui, j'ai pas changé d'avis sur le sujet. Je ne sais pas si ce sera un chemin pris consciemment par les Européens pour aller vers l'Europa First, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Et en Europe, quand il n'y a pas d'autre solution, on finit par emprunter ce chemin-là. Donc ça sera une conséquence, voulue ou non voulue, mais ce sera une conséquence à la fois de Trump, mais aussi de Poutine.
Bonjour Florence Sautret, correspondante de La Tribune. Alors on se retrouve avec une Russie de Poutine agressive, proche des partis d'extrême droite européens, des partis d'extrême gauche européens, bref, ceux qui sont europhobes en Europe. On se retrouve donc entre Poutine et Trump des États-Unis qui mise clairement sur l'éclatement de l'Union européenne et qui met tout en place pour créer les conditions d'une guerre économique. Qu'est-ce qu'on fait ?
Bon, d'abord sur Poutine, il soutient effectivement un certain nombre de gens, mais qui sont aussi représentés ici. Donc il faut voir, je veux dire, l'anti-Europe de Poutine existe pas encore. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de démontrer qu'il n'y a pas d'autre Europe que celle qui existe. Quant à Trump, aussi, le laisser venir et voir un petit peu où sont ses intérêts économiques. Cette réaction de dire l'Europe d'abord, c'est très joli, mais il faut être crédible pour faire ça.
Bonjour Charles de Marcy, la Fondation Robert Schuman. Il faut être crédible pour pouvoir dire l'Europe d'abord. Ça veut dire quoi d'ailleurs, l'Europe d'abord?
C'est ça, c'est est-ce qu'on parle de repli sur soi, et là c'est pas la bonne réponse, ou est-ce qu'on parle d'une Europe un peu plus puissante? Et donc là on joue sur ce jeu des différentes puissances. Vous avez cité la Chine, la Russie, les États-Unis et puis l'Union Européenne, parce qu'individuellement ça va être compliqué.
Bonjour Jean Quatremer.
Bonjour.
De Libération, ça veut dire quoi l'Europe d'abord?
C'est une excellente question que je vous remercie de ne pas me poser.
Voilà, l'Europe d'abord, oui, mais on fait quoi? Est-ce qu'on fait bloc ou est-ce qu'on se disperse? Je sens que Jean Quatremer va être d'une grande utilité cette semaine. Quelle est notre stratégie? Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500ME. Alors après la Seconde Guerre mondiale, eh bien le monde reposait sur deux axes, le libre-échange et la sécurité collective. Les deux clairement sont remis en cause. Aujourd'hui, Trump est protectionniste, isolationniste et Vladimir Poutine se montre quand même menaçant aux frontières de l'Europe. Ce sont surtout les pays de l'Est qui s'en plaignent. Je vais reprendre la métaphore de Charles de Marcy. Qu'est-ce qu'on fait, Jérôme Lavrieux, aujourd'hui? On attaque ou on défend?
Je pense que ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas de raison ni d'attaquer ni de défendre. Il y a de prendre conscience enfin de ce que nous sommes. Ça permet de remettre les pendules à l'heure. Vous avez un certain nombre de pays qui sont des pays de l'ancien bloc de l'Est qui avaient un tropisme, puisqu'ils ont vécu sous le joug soviétique pendant de longues années. Donc ils avaient un tropisme très... C'est l'Amérique qui nous protégera au final. La plus grande protection pour eux n'étant pas économique, mais étant par rapport aux voisins ex-soviétiques, il y a des relents du RSS à nouveau. Et donc ils ne regardaient que vers les États-Unis. Quand les États-Unis commencent à dire « mais nous... on va peut-être vous claquer la porte au nez parce que c'est plus du tout notre priorité, c'est pas là qu'on va dépenser notre argent », vers qui peuvent-ils se retourner? Vers nous. Alors on dit vers l'Union européenne. Je sais qu'on va tout de suite dire ça va être compliqué, notamment parce que la politique de défense, ça n'est pas une compétence prévue par les traités pour l'Union européenne, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, on va y venir. Il suffit que les uns et les autres en prennent conscience.
Charles?
Oui et non. Oui, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on peut réellement faire et donc ne pas faire croire que toute la solution viendra de Bruxelles et que la solution n'est que collective, parce que sur, par exemple, cette question d'Europe de la défense, on en est encore très loin. Si on avait un ministre européen de la défense, on serait de très loin la plus grande puissance au monde, mais on est né vraiment très loin d'un point de vue philosophique, d'un point de vue pratique, de partage de compétences, de réalité aussi de ce qui est faisable.
On serait de très loin la première puissance.
Oui, parce que collectivement, on peserait. D'un point de vue commercial, d'un point de vue militaire, on peserait.
Bien sûr.
On peserait beaucoup plus que ce qu'on est est aujourd'hui individuellement. Alors on peut avoir des coopérations renforcées, on peut augmenter avec des fonds par exemple pour financer la recherche et le développement sur les questions de sécurité, on peut avancer aussi sur la protection de nos frontières extérieures, mais une armée européenne c'est aujourd'hui chimérique, c'est pas la réponse qu'on peut apporter à demain.
On se rend compte qu'on paye encore aujourd'hui en 2017 les conséquences du vote de 1954 de l'Assemblée nationale française qui a rejeté la communauté européenne de défense. On peut prendre ça dans tous les sens. C'est comme le vote de 2005, ça a des conséquences délétères sur un demi-siècle. C'était un manque de vista politique à l'époque, et notamment aussi du général de Gaulle, hein, qui était opposé au réarmement allemand. On sortait de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai que ça allait très vite, mais c'était le momentum. Il y a des momentum, et l'histoire ne repasse jamais les plats. Ça, c'est quelque chose qu'on doit retenir, que les Européens doivent comprendre aujourd'hui. En 1954, on a loupé le coche, l'OTAN a pris le pas, les Américains ont assuré notre défense depuis 70 ans, et depuis, jamais on a redonné sa chance à l'Europe. Juste pour terminer sur ce qui se passe maintenant pour les Européens, c'est que là, le changement fondamental, c'est que les Américains, avant, pouvaient se battre sous le parapluie américain. On était les tribus gauloises, on se tapait dessus, mais au fond, il y avait l'occupant romain qui était là et qui, de temps en temps, venait faire la paix. Maintenant, c'est terminé. L'occupant romain, il rentre chez lui, et le problème, c'est que ça peut mal tourner entre les tribus gauloises. Donc, il va falloir réagir. Mais le problème, c'est qu'on sort de 70 ans d'incapacité à travailler entre nous. On est d'accord sur rien. On n'est pas d'accord sur les armements. On n'est pas d'accord sur les buts stratégiques. On est d'accord, mais on ne sait pas à quoi servirait une défense européenne. Je veux dire, contre qui, contre quoi? Il y a des gens qui sont contre les Russes. Nous, les Français, on n'est pas contre les Russes. Il y a des gens qui sont contre les Chinois, pour les Chinois.
Certains élus français ne sont pas contre les Russes.
Oui.
On peut essayer de relativiser. Vous parliez tout à l'heure de l'influence de la Russie auprès de certains partis politiques. Ce n'est pas juste une influence politique. C'est aussi une influence financière de la Russie qui arrose un certain nombre de partis politiques.
Oui, mais c'est un peu facile de rejeter la faute sur la Russie. Je pense que c'est.
Mais je ne rejette pas la faute sur la Russie. La Russie fait son boulot de son côté.
Ce qui est très inquiétant, c'est que cette crise, elle n'est pas venue avec l'élection de Trump ou avec la montée en puissance de Poutine. Elle a 25 ans. C'est-à-dire, c'est une question qu'on aurait dû se poser après, et qu'on s'est posée en réalité sans y apporter de réponse, après la chute du mur. Parce que l'Union européenne, effectivement, s'est construite contre les États-Unis au sens adossé à eux, en partie aussi en protestant contre eux. Et à ce moment-là, quand le mur est tombé, on a perdu cet appui, en fait. On a commencé à sortir de la logique de la guerre froide. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est juste la suite de ça. Or, depuis 25 ans, on parle de défense européenne et on a extrêmement peu avancé. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir
pour intéressant de parler de la chute du mur, Florence. Est-ce que vous pensez que dans la tête de Trump, on est en train de vivre un 1989 à l'envers en Europe? Est-ce que vous pensez que dans la tête de Trump, c'est l'éclatement de l'Union européenne qu'on est en train de vivre? Est-ce que lui, il est en train d'aider, il s'est dit prêt à aider les Britanniques dans le cadre d'un Brexit, et il s'est dit prêt à aider n'importe quel pays qui souhaiterait quitter l'Union européenne?
Il y a quelque chose de juste un peu dans sa réaction, je crois, qui est une analyse historique juste, c'est que l'Union européenne a tenu ensemble et s'est construite parce qu'elle était coincée entre ces deux blocs. Et quand ces deux blocs ne s'opposent plus, il y a un risque, je dirais presque mécanique, de délitement. En ce sens, il a quand même raison.
Enfin, et a priori, il ne s'oppose plus.
Non, mais il faut s'en rendre compte.
Il y a un risque de délitement.
Non, mais il faut s'en rendre compte que pour la révolution géopolitique que nous sommes en train de vivre. L'Europe et le monde avaient deux pôles de stabilité qui étaient la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, et notamment l'Occident. C'est-à-dire qu'ils nous assuraient la sécurité. Et ces deux pôles de sécurité sont en train de se retirer, de renouer avec l'isolationnisme. Parce qu'il y a eu un isolationnisme américain, comme il y a eu un isolationnisme britannique. C'est quelque chose dont on n'arrive pas encore à prendre la mesure exacte. Quel effet ça va avoir? J'ai été parler à des gens au sein de la Commission européenne.
Il va falloir en prendre la mesure vite, parce qu'ils ne vont pas nous attendre.
Non, mais à la Commission européenne, c'est extraordinaire.
C'est pour ça qu'après les constats, j'aimerais bien qu'on arrive à des esquisses de solutions.
Juste pour vous donner une idée du choc que ça représente, à la Commission européenne, ils sont en train de se dire encore aujourd'hui que, en fait, Trump est encore en campagne. Et que les choses vont peut-être changer. Que, en fait, là, il prend des mesures parce que c'est les premiers jours, puis après, il va se calmer. Et que dans son entourage, il y a son entourage qui va petit à petit le contraindre à venir un peu plus de réalisme, donc d'être plus
pro-européen. La première semaine, prouve que non.
Exactement. Mais non, c'est des conversations que j'ai eues avec les gens de la Commission après la première semaine. Donc, il y a un déni de réalité. Je crois que c'est la même chose aux Pays-Bas, des pays traditionnellement alignés sur les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, etc. On n'a pas
encore compris ce que ça impliquait.
Les trois grandes puissances, Russie, États-Unis et Chine, ont un leader qui est là pour au moins 4 ans et qui est un leader nationaliste et puissant et qui joue dans ce rapport de puissance. De l'autre côté européen, ils vont pas venir voir Tusk et Juncker en premier. Ils appellent May, en tout cas du côté américain, et la première visite
donc,
officielle.
Donald Tusk, le président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission
pour la
européenne,
Commission.
Et Theresa May, la première ministre
donc,
britannique.
Donc la contrepartie en termes de négociation, c'est pas Bruxelles ou pas encore Bruxelles. Ça va être individuel et évidemment qu'ils vont tirer sur le Britannique et Trump s'est déjà félicité parce que si vous affaiblissez l'Union européenne, pas sur la question de sécurité et de défense, d'un point de vue commercial, c'est plutôt positif. Et c'est sur cet axe qu'il va jouer. Sur la question de sécurité, il a déjà dit que pour l'article 5, parce que vous vous souvenez, donc c'est cette solidarité de fait pour les membres de l'OTAN, Trump a dit, si oui, s'ils répondent à leurs objectifs et leurs obligations financières de participer finalement à ces budgets-là, pas de problème, on agira. Si c'est pas le cas, on peut en rediscuter. Et ce que je pense qu'on va voir, c'est que les États, et c'est déjà arrivé en Allemagne, les seuls qui arrivent aujourd'hui aux 2%, il n'y en a pas tant que ça, vous en avez 4, vous avez la Pologne, vous avez l'Estonie, vous avez le Royaume-Uni, vous avez la Grèce, pour des raisons historiques aussi, je pense que tout le monde va se remettre un petit peu à niveau et revenir à ce principe de réalité.
Jérôme Lavrieux.
Oui, mais moi je pense que notamment, pour reparler, parce que c'est le plus emblématique de la politique européenne de défense, Trump a d'une certaine manière raison de dire vous êtes bien gentil. Vous me demandez à mon pays des tombereaux de milliards d'euros depuis depuis des décennies et vous avez rien foutu. Donc vous êtes bien gentil à part m'acheter de temps en temps quelques F-16 qu'on fait les polonais.
Vous dites Trump a raison.
Mais non, mais à un moment, Trump, il défend les États-Unis. Arrêtons de penser qu'il va défendre autre chose.
Tous les présidents.
Et donc, ce qui va avec ce que je disais au départ de l'émission, c'est que ça va d'une manière ou d'une autre nous obliger à le faire. Est-ce que la conséquence de ça, c'est est-ce qu'on aura une politique de défense intégrée avec une armée européenne, avec des soldats qui n'auront pas d'autre citoyenneté que la citoyenneté européenne et que ce sera Monsieur Juncker ou quelqu'un d'autre qui dira ben, j'envoie demain des troupes. Ça n'existera pas. Ne nous battons pas pour ça. Ça ne se fera jamais. Ça fera très longtemps que je serai un ancien député européen que ça n'aura pas commencé. Jean Quatremer sera sans doute toujours là pour le voir, mais nous, non. Donc, ça ne se fera pas. Par contre, le fait de dire que nous devons remonter en gamme, je vous rappelle qu'avec la sortie des Britanniques de l'Union européenne, nous n'avons plus que un porte-avions. C'est-à-dire que le prochain président de la République française, je ne parle pas du prochain président de la Commission européenne, pour son mandat de 5 ans, aura pendant la moitié de son mandat l'impossibilité de projeter des troupes par voie maritime pendant la moitié de son mandat, parce qu'il va être en révision pendant au moins 20 mois, ce porte-avions. Les Britanniques en avaient un qui n'était pas interopérable, puisque c'est des arrières qui décollent verticalement et c'est pas fait. Et quand on dit les Russes, tout le monde a peur des Russes en permanence, ils ont une sorte de vieille savonnette qu'ils ont trimballée difficilement devant la Syrie. Premier décollage, l'avion est tombé dans la flotte, et résultat, ils sont repartis. Donc on n'est pas aussi les nains qu'on pourrait croire, il suffit de faire un effort supplémentaire.
Moi je crois qu'on pourrait d'abord sur l'absence de leader européen, je pense que Trump a très bien compris qui était son interlocuteur en Europe et qui était du coup son ennemi, c'est Merkel. Merkel, elle a des chances de se faire réélire et donc elle sera aussi là pour 4 ans encore. Bon, première chose. Et deuxième chose, peut-être qu'il faut prendre au mot Trump et investir dans l'OTAN. Je veux dire, en tout cas, il faut faire un choix.
Pour équilibrer ce rapport de force au sein
de
l'OTAN.
Parce que, qu'est-ce qui va, qui est-ce qui était en Méditerranée au pire de la crise des migrants pour mettre un peu d'ordre entre la Turquie et la Grèce? Enfin, je veux dire, ils ont fait appel à l'OTAN une fois de plus. Donc, je pense que l'OTAN, quand même, il faut pas le sortir trop vite du paysage. Et par ailleurs, je pense que ce qui permet aux Européens de tenir un peu plus ensemble, ce seront des crises du type migrants ou du type crise de l'euro, c'est ça qui, dans les dernières années, oblige à bouger.
Sachant que la force de l'Allemagne, la force d'Angela Merkel, ce sont les exportations, et que là, Donald Trump, en gros, il fait comprendre à Angela Merkel à Mouti que, attention, ces voitures allemandes exportées vers les États-Unis, eh bien, pourraient bientôt devoir payer 35%.
Mais c'est n'importe quoi, puisque l'essentiel justement des ventes allemandes aux États-Unis, ce sont des fabrications aux États-Unis.
L'Europe importe plus de BMW vers l'Europe produite aux États-Unis qu'il y a de BMW des États-Unis qui partent vers l'Union européenne.
On a parlé de défense. La question, quelles sont nos armes finalement face à Moscou, face à Washington? Est-ce que l'euro, la monnaie unique, peut en être une? Est-ce qu'on peut l'utiliser? Quelle doit être notre approche du marché? Est-ce qu'on on continue de s'ouvrir ou est-ce qu'on se referme? Et puis, vous avez parlé de la Chine C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la Chine là-dedans. Trump, lui, il a peur de la Chine. Il a fait campagne contre la Chine. Et si, entre Européens et Chinois, on faisait nous-mêmes notre axe? À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous discutons aujourd'hui du présent et de l'avenir de l'Union européenne de Bruxelles, entre Washington et Moscou, entre Trump, Donald Trump et Poutine, Vladimir Poutine. Poutine, j'ai remarqué sur votre blog, Jean Quatremer, le blog Coulisses de Bruxelles, vous l'écrivez, vous, P-U. T-I-N-E, c'est votre seule concession à la langue anglaise.
Absolument.
Finalement. Avec nous en plateau, Jérôme Lavrieux, eurodéputé PPE, Parti Populaire Européen, Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération et Florence Autrey de La Tribune. On a parlé de défense pour savoir comment on peut placer l'Europe first en réponse à l'America first. Mais quelles sont nos autres armes? Est-ce que la politique de concurrence, ça peut être une arme, Florence Autrey? Ça l'a déjà été. Vis-à-vis des Américains.
Alors là, c'est quand même pas. C'est vraiment une arme un peu lourde. Parce que quand on a un conflit commercial sur des questions de concurrence avec les Américains, ça prend des années et des années. Donc, je sais pas, faut plutôt parler de guerre commerciale, de tarifs, de choses comme ça. Moi, je crois que c'est un chemin un petit peu dangereux. Ça me semble pas la réponse immédiate au discours.
Piste, c'est une piste de la part de certains députés européens ou même à la Commission européenne, on parle de la concurrence. Et on dit, nous aussi, on peut commencer à poser des questions à des sociétés américaines.
En référence à l'affaire Apple,
etc. Jérôme Lavrieux,
on en parlait le lendemain de l'élection sur ce plateau de Trump. Le problème fondamental de l'Union européenne, quand on regarde, quand on additionne tous les chiffres de population, de production, de revenus, etc., c'est que c'est un géant. Quand il se regarde dans la glace, il se perçoit comme étant un nain. Le jour où il se verra pour ce qu'il est, un géant, et qu'il en prendra conscience, il pourra mener la dragée haute.
C'est pas forcément pour demain. Nous regardent, c'est pas tant quand nous on se regarde, c'est quand les autres nous regardent.
Mais que les autres nous regardent, c'est leur problème. Mais même nous, quand on se regarde, on n'en a pas conscience. Sauf que c'est en train, je dois le dire, d'évoluer favorablement. Beaucoup plus que dans les 30 premières années de la construction de l'Union européenne. Et il y a un acteur que vous n'avez pas encore cité sur le plateau, qui est un allié, et je ne suis pas un contenteur de leur système de fonctionnement démocratique, avec tous les guillemets qui s'imposent, c'est la Chine. Parce qu'il y en a qui vont un moment dire « ça suffit, ça commence à bien faire, mais vous allez avoir un problème à faire avec nous si vous continuez à nous traiter de la manière dont vous voulez le faire. »
Jean Quatremer, quand vous
sera un allié de fait pour nous.
Vous voyez quoi? Et que voient les autres?
Sérieusement, c'est pas l'Europe qui déclenchera une guerre commerciale. L'Europe, son intérêt n'est absolument pas de rentrer en guerre avec les États-Unis. Elle ripostera éventuellement, mais en tous les cas, c'est pas elle qui... Elle continue, par exemple, à défendre le libre-échange. Et aujourd'hui, elle va tenter de sauver le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada. Elle va commencer... vous savez que les Japonais, dès le lendemain de l'élection de Trump, sont venus à Bruxelles pour dire aux Européens, écoutez, on a pris 2 ans de retard dans la négociation de l'accord de libre-échange. Maintenant, on va l'accélérer parce que les Américains vont nous laisser tomber. Avec les Chinois, il va y avoir des accords qui vont se faire. Je veux dire que, au contraire, les Américains se retirent, nous avons un espace à occuper. Voilà. Alors, la grande idée d'Obama et de l'administration Obama, c'était quoi en négociant des accords de libre-échange régionaux avec le Pacifique, donc le TPP, ou le TAFTA avec l'Union européenne. C'est clair que les normes du commerce mondial au XXIe siècle soient occidentales et pas chinoises. Et bien maintenant, les Européens ont une carte à jouer pour faire que les normes effectivement du commerce mondial, elles soient pas chinoises, mais elles soient le plus européennes possible, puisque les Américains ne veulent plus jouer leur rôle. Donc on a un espace à occuper, sans doute avec les Chinois. Et les Chinois, en ce moment, en plus, sont en train d'évoluer parce qu'ils ont d'énormes problèmes sur le plan de l'environnement. Et aujourd'hui, ils sont davantage prêts à entendre la question de protection des normes en matière environnementale, de sécurité alimentaire, etc., etc., qu'ils ne l'ont jamais.
On va rebaptiser cette émission bientôt. Ce sera plus 500 millions d'Européens. Ce sera 1,8 milliard d'Européens et
moi,
de Chinois.
Et moi.
Et moi. La monnaie, ça peut être une arme aussi, Charles de Marcy.
Oui, mais c'est pas la première que j'aurais mis sur la table. Je serais resté, moi, sur les accords commerciaux, sur cette capacité à pouvoir essayer de dicter, en fait, le rythme. Et on s'est aperçu sur l'année, de 2014 d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'année 2016, qu'on a eu beaucoup de mal, notamment sur les instruments de défense commerciaux. Donc, les capacités à pouvoir mettre des droits anti-dumping plus forts s'il y a des dérives qui sont arrivées. Pourquoi? Parce que vous avez des États membres, de mémoire 11 ou 12, qui ont bloqué, en fait, le processus. Et on s'aperçoit qu'on est quand même assez friable. Et là, les Chinois nous regardent de l'autre côté et ils ont pu jouer avec ça, le fameux statut d'économie de marché qu'on a souvent abordé ici. Et c'est là où nous, il faut qu'on ait une sorte de réveil, c'est de se dire, il faut accélérer, il faut être capable évidemment d'être ouvert et on va pouvoir continuer à prôner le libre-échange. Il faut savoir que sur les 20 premiers partenaires commerciaux des États-Unis, il y en a 15 qui sont en excédent, en déficit. Donc les États-Unis ont toujours une balance commerciale négative avec la plupart de leurs principaux partenaires, y compris avec l'Union européenne, c'est le deuxième après la Chine. Donc nous, dans le rapport de force, on a quelque chose à jouer. Mais il faut être capable d'être unis. Et si on a toujours des capitales qui vont bloquer pour des intérêts plus particuliers, ben on sera toujours à la ramasse et on ne sera pas capable de dicter.
Le Brexit change tout.
Le
pays qui bloquait justement une politique commerciale forte, il s'appelait l'Agro-Bretagne.
Une défense aussi. Enfin, regardez l'exemple du CETA quand même ces derniers mois, l'accord avec le Canada. Moi, c'est très inquiétant ce qui s'est passé du point de vue de la politique commerciale européenne parce qu'on est parti, on a pris un chemin où on va politiser beaucoup plus la politique commerciale sans avoir vraiment pris la précaution, sans investir dans l'explication. Et pour l'instant, la politique commerciale européenne, et c'est pas la faute des Américains, elle est drôlement grippée. Il faut quand même avoir conscience du fait que ce qui s'est passé aux États-Unis se passe un peu ici, ce tentation du repli, ce populisme, etc. On le voit à travers d'autres choses. Donc on va devoir lutter contre nous-mêmes aussi.
Et ce, en plein contexte électoral, Jérôme Lavrieux, parce qu'on a des élections évidemment en France, mais également en Allemagne. Donc le couple, le moteur franco-allemand, un peu grippé là en 2017.
Oui, d'accord, mais si la contrepartie de dire le problème c'est qu'on a des échéances électorales, il faut adopter un autre système, moi je préfère avoir ce genre de problème à gérer, qui est des élections, ça fait partie de notre vie et c'est ce qui est fondamental dans la construction de l'Union européenne. Les Chinois ont moins de problèmes de ce genre pour nous. Quoique quand ils font un changement de chef, ça dégage pas mal dans les étages en dessous, hein, et c'est un peu violent. Nous c'est un peu plus civilisé quand même, et c'est les électeurs qui décident à un moment ou un autre. Mais en même temps, ça c'est une forme de chance. C'est une forme de chance. Bien sûr qu'il va y avoir des élections. L'extrême droite ne va pas prendre le pouvoir en Allemagne. D'accord ? L'extrême droite ne va pas prendre le pouvoir en France. On peut raconter tout ce qu'on veut pour se faire plaisir, se faire peur. Non. On sait à peu près quelle est la ligne. Et il n'y a pas de grande différence entre la politique européenne, il y a un problème d'allant qui a mené François Hollande, et celle qui sera menée par son successeur, que ce soit François Fillon ou Emmanuel Macron, ou c'est non jamais... Non, d'accord. je connais moins la gauche que vous, donc je ne peux pas, avoir de jugement de valeur
le retour de M. X.
En la matière. oui, là, on est dans le Z.
Bon, est-ce que là, globalement, pour cette Europe First, vous, Charles de Marseille, vous voyez des signes encourageants aujourd'hui en Europe?
Oui, encourageant, parce qu'il faudra réagir, de facto, commercial et sur les questions de sécurité et défense. Pas vers une armée de défense, mais ça va augmenter les budgets. D'ailleurs, ça se voit déjà en Allemagne, par exemple. Aussi parce que les instruments et les outils de défense sont assez vieux. Et donc, il y a aussi un moment, un principe de réalité, ça va pousser sur ces questions-là. Et non, parce que je crois qu'on a un tunnel électoral et que pendant 6 mois, on va être un peu figé et attendre de voir ce qui va sortir, même si Merkel a plus de chances de pouvoir rester.
Sur les leaders mondiaux,
vous aviez raison tout à l'heure en disant que Merkel serait probablement toujours là. C'est-à-dire que pendant 6 mois, on a quand même cette absence de contrepartie dans ce rapport de force.
Jean, est-ce qu'il y a des signes encourageants ?
Il se passe un petit événement cette semaine qui est très intéressant, qui est l'Agence spatiale européenne, l'ESA, qui a demandé à ce qu'on adopte l'équivalent du Buy American Act, donc un European
Buy European Act.
Oui, ça voilà. Pas American Act européenne. Enfin bref, en gros, une préférence européenne. Il faut voir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Pour tous les lancements institutionnels, c'est énorme. Pour Galileo, justement, à l'époque, on était en pleine idéologie libre-échangiste, concurrence libre et non faussée, etc. La Commission, quand elle a choisi les lanceurs et les fabricants de satellites, elle a fait jouer la concurrence. Le résultat, c'est que, par exemple, on a donné les satellites Galileo à une toute petite entreprise
OHB,
qui n'a pas été capable de les fabriquer. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont en panne dans le ciel.
Les Allemands.
Elle est à moitié en faillite. Et on a donné le lancement
à Soyouz, après avoir envisagé de les donner aux Chinois.
En Guyane, quand même.
Oui, en Guyane, mais quand même. Je veux dire, imaginez les Américains donner les leur lancement à Ariane Espace pour les lancements stratégiques, c'est juste, faut juste oublier. Donc là, ils disent, il faut en sortir de cette logique-là, de la concurrence libre et non faussée, et le fait que ça soit l'ESA qui le demande...
C'est une agence européenne qui le demande. C'est un bouleversement idéologique majeur dans le fonctionnement de l'Union européenne.
Donc ça, c'est un signe encourageant.
C'est pas un État qui le réclame.
Pour le choix des satellites, la concurrence était entre différentes sociétés
européennes.
Européennes, entre les Allemands, les Franco-Italiens.
Non, pour les lanceurs, etc. Là, on parle pour les lanceurs.
Oui, pour les lanceurs. Mais quand vous discutez avec les gens, ils disent oui, qu'est-ce que c'est cher de passer par par la Guyane, quoi.
Oui, mais c'est
proteste cher. En même temps.
Oui, mais d'accord, mais il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire que les Américains, par exemple, quand ils lancent des programmes d'armement, des investissements, c'est extrêmement cher. Ensuite, leurs avions sont moins chers parce que effectivement, ça a été amorti sur le marché intérieur. Nous, on peut faire la même chose. C'est-à-dire que si on pense européen, avec une préférence européenne, c'est nous effectivement, et ce sont les contribuables européens qui vont payer le développement. C'est vrai que ça aura un coût, mais ensuite, ça veut dire une présence sur le marché mondial. Il faut sortir de cette logique du moindre coût qui a pourri, à mon avis, la naissance d'une industrie.
Est-ce qu'on a notre destin en main aujourd'hui? Parce que c'est intéressant,
que
juste un petit complément, ce qui est intéressant quand on écoute Jérôme Lavrieux, c'est de dire mécaniquement, on va y arriver. Mécaniquement, les uns les autres vont nous amener à nous améliorer, à grandir, à se renforcer.
Oui, il y a une pression, mais justement, nous avons notre destin. Le problème, c'est le nous. Mmh. Et là, je suis pas du tout d'accord avec les thèses.
Il nous reste une minute pour cette question existentielle.
Avec les thèses de Jean, c'est qu'à mon avis, l'avenir de l'Union européenne, c'est le Conseil européen. C'est-à-dire, c'est l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. C'est pas la Commission, c'est pas le Parlement. Parce que quand vous regardez ce qui s'est passé de fort au plan diplomatique relations extérieures ces derniers mois, c'est l'accord avec la Turquie, quand même, sur les migrants, qui est un truc complètement hétérodoxe, pas dans les clous des procédures européennes, etc., mais qui, quand même, a apporté un début de solution.
Non, sur cet aspect-là, je suis complètement d'accord avec
vous. Est-ce qu'on a notre destin en main ?
Oui, on a notre destin en main. Si pour une fois, les États membres acceptent de lâcher la bride. Le drame, aujourd'hui, de l'Union européenne, c'est que, quelque part, elle fonctionne... comme le plan Fouché le souhaitait, général de Gaulle, c'est-à-dire ce sont les États qui décident de tout à l'unanimité.
Si on lâcher sort la pas, bride, si on,
Jérôme si on Lavrieux, l'Union européenne n'avance et ne progresse que quand elle a affronté une crise. Et ce qui se passe dans l'évolution géopolitique dans le monde en ce moment, c'est une crise. Et à chaque fois qu'il y en a une, c'est la démonstration que vous faisiez à l'instant, on a réussi par des trucs très hétérodoxe, comme vous le disiez, à trouver des solutions qui n'étaient pas dans les traités, qui n'étaient pas dans le mode d'emploi du fonctionnement de l'Union européenne, qui d'ailleurs n'existe pas vraiment.
Non,
et à chaque fois, on a trouvé une solution.
Bon.
Et quand il y a une crise, c'est toujours un bénéfice pour nous et on est toujours là.
Y compris avec les États et l'intergouvernemental au service du communautaire.
Bien sûr.
Très bien. Jérôme Lavrieux, Charles de Marcy, Jean Quatremer, Florence Autrey, vous restez avec nous. On va être rejoint après la pause par Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse européenne. On va notamment parler de cette sortie étonnante du pape contre le populisme. À tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann Anthony Nogues.
Merci de nous retrouver à Bruxelles pour cette seconde demi-heure de 500 millions d'Européens, toujours avec nos invités, Jérôme Lavrieux, eurodéputé PPE, c'est le Parti Populaire Européen, Charles de Marcy de la Fondation, Robert Schuman, Jean Quatremer de Libération et du Bloc Coulisses de Bruxelles, et Florence Autrey, correspondante de La Tribune, ici à Bruxelles. Nous allons à présent feuilleter la presse européenne. Bonjour Éric Scholl.
Bonjour Yann Anthony.
Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. De quoi qu'on cause aujourd'hui, Éric ?
On va faire un tour en Espagne pour parler du pape. On ira en Allemagne. On ira même beaucoup en Allemagne. Et puis, on ira ensuite à Prague.
À Prague, en République tchèque. Justement, c'est intéressant. On va y revenir avec vous avec cette sortie étonnante, forte, de la part du souverain pontife cette semaine, qui en gros dit qu'il faut se méfier des sauveurs. La revue de presse.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Alors Eric Scholl, direction l'Espagne, El País.
Oui, effectivement, une sortie, alors je ne sais pas si elle est étonnante, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'elle est forte, cette sortie du souverain pontife. C'est une interview accordée à El País, dans laquelle il parle de beaucoup de sujets, il parle de Donald Trump, il parle de la curie romaine, il parle du rôle de la femme dans l'Église, mais surtout, à un moment, il a cette grande explication, ou plutôt un appel, il lance un appel à se méfier des populismes. Et alors, il n'hésite pas, le pape, à faire un rapprochement avec le nazisme. Il revient à l'Allemagne des années 30, un pays détruit qui cherche son identité, qui cherche un leader en mesure de la restituer. Et donc ce peuple trouve Hitler, qui a été élu donc par le peuple et qui successivement l'a détruit. C'est là le danger, dit le pape dans cette interview. Il y a un manque de discernement en période de crise. Nous cherchons un sauveur qui nous restitue une identité et nous nous défendons des autres peuples qui pourraient nous priver de cette identité avec des murs, des fils barbelés, avec n'importe quoi. C'est très grave, nous explique le Saint-Père, c'est dans El País.
Voilà, je disais étonnante parce que je suis pas sûr que l'ancien pape aurait ainsi remis en cause des...
C'est directement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette interview du pape intervient après l'élection de Donald Trump. Donc c'est clairement un avertissement aux Américains. Parce que c'est vrai que quand vous regardez l'élection de Donald Trump, le pays n'est plus en crise. Il a connu une crise extrêmement sévère, mais aujourd'hui le pays est en plein emploi. Alors il y a une partie de la population qui n'a pas retrouvé son niveau de vie d'avant la crise, mais il faut voir que le taux de chômage aux États-Unis aujourd'hui est de 4,5%. C'est vrai que la sécurité sociale, c'est pas comme en France, mais il n'y a jamais eu de filet social comme en Europe, ça c'est clair. Donc on a du mal à comprendre pourquoi Trump est élu aujourd'hui et pourquoi il n'a pas été élu, au contraire, l'équivalent d'un Trump, en 2009, en pleine crise. Et ce qui montre que la nature de la crise que nous traversons aujourd'hui, c'est autre chose que les crises économiques des années 30. Et c'est pour ça que c'est encore plus dangereux. Parce que quand les gens disent on va retrouver la croissance, on va retrouver le plein emploi et ça va résoudre le problème. Marine Le Pen va disparaître, Geert Wilders, enfin gros, en gros tous nos fascistes vont disparaître du jour au lendemain avec le plein emploi. Ça n'est pas vrai. Je veux dire que vous avez des populistes, des démagogues extrêmement puissants dans des pays qui sont en quasi plein emploi aujourd'hui. L'Autriche, en Allemagne,
l'Angleterre.
L'Angleterre, exactement. Donc il faut se poser d'autres questions. Pourquoi aujourd'hui nos concitoyens se sont-ils perdus au point de voter à 25, 30, 40%
Est-ce que Jérôme Lavrieux a la réponse?
Démagogues.
Je n'ai pas la réponse à savoir pourquoi ils sont perdus. Ce qui est intéressant, vous avez dit, M. Quatremer, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils le disent juste après l'élection de Trump. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il le dit juste avant l'élection présidentielle en France et les élections générales en Allemagne. Parce que la curie a souvent un tropisme aussi très européen, même si c'est le premier pape qui ne soit pas européen. Mais il le dit avant nos élections aussi chez nous.
C'est un avertissement.
C'est qui est un avertissement et aussi un message aux électeurs, de dire que ceux qui veulent vous vendre des messages en se gargarisant du fait de dire qu'ils sont défendent des valeurs traditionnelles catholiques, etc., ils peuvent pas tout vous vendre au nom de la religion. Ils peuvent pas vous vendre le repli sur soi au nom de la religion, les barbelés au nom de la religion, en tout cas de celle-ci. Donc faites attention au message, ne vous laissez pas
Charles avoir. Charles de Marcy, on a bien compris maintenant que les médias ne faisaient pas les élections. Est-ce que vous pensez que le pape peut avoir une vraie influence?
Le Vatican est l'état le plus stable du monde, alors peut-être qu'il a des choses à apprendre. Maintenant, je ne sais pas si ce critère de religion est essentiel, mais il va toucher tout le message qui est donné par les partis politiques sur l'approche de l'identité. Et Trump a aussi vachement joué avec cet aspect-là. Pas forcément sur l'aspect religieux, mais sur l'aspect identitaire. Et là, c'est assez agressif et violent. Et je pense qu'il faut lire aussi ce message dans cette démarche-là, qui ne va pas toucher que les chrétiens et les catholiques du monde, mais qui a une vision un peu plus large, et notamment de faire attention à ces chimères sur les identités.
Florence?
Oui, il y a un danger de la part des Européens ou des pro-européens à avoir un discours sur la défense de l'Europe en soi. C'est pas ça le discours à avoir. Il faut expliquer ce qu'on est. En fait, et encore une fois, pardonnez-moi, mais c'est un peu ce qu'a fait Merkel, même si on peut critiquer ses décisions pendant la crise migratoire. Regardez ses discours, c'est fascinant. Elle parle aux Allemands, des Allemands. Elle lui dit, voilà ce que nous sommes. Je vous aime, on est un beau pays, tout le monde nous aime, tout le monde veut venir chez nous.
Et on y arrivera.
Après quoi, elle se fait piéger par Viktor Orban, qui est en train de monter une espèce de fronde contre elle. Et donc, il y a un jeu de pouvoir beaucoup moins inégal qu'on le prétend. Mais quelque part, voilà, son discours, c'était ça. Donc, c'est pas dire Bruxelles ou etc. C'est finalement, qu'est-ce qu'on veut défendre, quoi, qui on est.
Je me souviens que Florence Autrey, vous aviez écrit une formidable biographie d'Angela Merkel. Là, avec les élections, ça pourrait être intéressant de...
On remet ça. On la ressort. On la met à jour, on la ressort.
D'accord, vous la ressortez. Bon, bah, très bien. On va regarder. Rafraîchi. D'accord. Je vais regarder ça. Charles, un dernier mot avant d'approcher justement la direction de l'Allemagne.
Justement,
avec Eric.
Ce grand écart, je pense qu'il est sur les démocraties libérales. Et on voit justement Merkel qui se met en leader de ce monde des démocraties libérales. C'était aussi le sens de son courrier de félicitations à Trump quand elle arrivait, en disant attention, nous on est là, mais tu dois encore rester sur cette approche des démocraties libérales. Et il y en a d'autres, y compris au sein de l'Union européenne, et vous avez cité Orban, qui sont sur plutôt les démocraties illibérales et qui changent le paradigme.
Mais alors, la leçon, c'est qu'il faut arriver à un compromis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer en force. Il faut faire avec Orban.
Il faudra faire avec Orban. Mais pas sous l'angle que lui essaie de promouvoir.
Direction l'Allemagne à présent pour parler du Brexit avec vous, Eric. Pourquoi il faut faire payer le prix fort aux Britanniques? Ça va faire plaisir à quatre mers, ça.
Oui, c'est la Süddeutsche Zeitung qui fait qui produit cet article. Bon, il y a énormément d'articles qui sont en train de sortir en ce moment sur le Brexit, et je pense que ça va évidemment se poursuivre pendant les prochaines semaines jusqu'au mois de mars. Et là, c'est un article d'avertissement en quelque sorte à Theresa May. Le journaliste allemand nous explique que Theresa May veut la souveraineté totale et elle doit en payer le prix. Elle promet à son pays plus de liberté et d'échanges commerciaux. Ce n'est là que l'enrobage marketing d'une décision qui se traduira aussi par des privations et des déconvenues pour les Britanniques, nous explique le journal allemand. Il y a un prix à payer. Alors, car si, et effectivement, il nous prévient, si le prix à payer pour sortir de l'Union européenne est faible, nombreux seront les candidats à emboîter le pas aux Britanniques. Et bien donc, il donne sa formule, en fait, pour faire court, nous dit-il, la règle appliquée doit être la suivante. Plus un pays souhaite s'isoler et retrouver sa souveraineté, plus les droits de douane doivent être élevés et les entraves nombreuses. Il faut faire payer l'Allemagne.
Voilà.
Le Royaume-Uni.
Il faut faire payer les Britanniques. Malheureusement, Eric, on peut rien couper au montage. Qu'est-ce que vous en pensez, Charles de Marcy? Il faut faire payer l'Allemagne.
Faut faire payer l'Allemagne, non. Est-ce que le Royaume-Uni va devoir payer? Oui, il va y avoir un coût. Évidemment qu'il va y avoir un coût. Si j'étais travailleur britannique, je m'inquiéterais. Oui. Parce qu'il va falloir justifier cette nouvelle compétitivité, alors qu'ils ont
François Hollande,
il va avoir des éléments à mettre dans la balance.
François Hollande l'a tout de suite dit, il faut qu'il y ait un prix. Je crois que c'est la plus belle phrase qu'il ait prononcée. Ils ont voulu partir, mais il faut qu'il y ait un prix. Si jamais la Grande-Bretagne sort avec le sourire de la crémière...
on connaît la suite.
Voilà, etc. Non, j'avais envie
ça
de dire aller loin.
Oui, je sais.
Ça peut aller assez loin. Non, je veux dire que là, ça va donner des idées à d'autres pays, notamment en France. On va pouvoir dire, regardez... on peut sortir sans que cette
conséquence...
À moindre frais. Et je crois que là, tout le monde est d'accord, même dans les démocraties illibérales dont vous parlez, Charles, pour dire qu'il faut que ça ait un prix. Le Premier ministre slovaque, par exemple, a dit si jamais la Grande-Bretagne sort sans que ça ait un coût fort, ça va donner des idées à tous nos populistes et nos démagogues.
Oui, alors moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité des Britanniques à s'en sortir. Ils sont quand même assez forts. Et ce que fait May jusqu'à présent de dire bon, « En fait, on s'en va. Vous pensez que j'allais vous demander des trucs ?»« Mais non, en fait, je ne vous demande rien. Je veux rien. »
Si, elle a demandé, elle n'a pas eu.
Maintenant, son discours, maintenant, c'est plutôt pas de deal qu'un mauvais deal.
Oui, mais parce qu'elle n'a pas eu l'air
de demander beaucoup.
Il ne faut pas sous-estimer la capacité de la City à s'en sortir. Et il ne faut pas surestimer la capacité des Européens à faire monter le prix. Ouais. Non, à faire monter le prix vis-à-vis des Britanniques. En revanche, il y a un truc qu'il faut dire, à mon avis, c'est que le Royaume-Uni, c'est quand même très spécifique. Donc, si le Royaume-Uni veut sortir, ça ne veut pas dire que l'Allemagne ou la France peuvent sortir. Ils ont toujours eu une position très, très particulière là-dedans. Ce qui, eux, peuvent se permettre, à un certain prix, d'autres ne peuvent pas se permettre.
Jérôme Lavrieux. Regardez, nous avons, j'acquiesce à tout ce que vous venez de dire, mais nous avons eu ces derniers jours une réunion de toutes les extrêmes droites de l'Union européenne, qui ont eu des débats internes entre eux pour dire est-ce qu'on peut s'afficher avec le Front National, parce que nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne, parce que nous, dans nous sommes d'extrême droite dans nos pays de l'Est, mais si nous sortons, nous sommes morts, nous sommes cuits, nous sommes rincés, nous n'aurons plus rien alors que nous en bénéficions. On veut bien râler sur certaines choses, s'en servir de prétexte pour gagner des points aux élections, mais nous ne voulons pas en sortir. Donc il faut aussi arrêter de penser que tout ceci va exploser du jour au lendemain. Si Marine Le Pen est atteinte par un plafond de verre dans notre système électoral, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent « Mais nous, on est retraités, on est prêts à voter pour le Front National s'il faut, mais on ne veut pas supprimer l'euro. On ne veut pas un rétablissement systématique du contrôle aux frontières. C'est ce qui fait qu'elle progresse pas plus dans les sondages qu'elle a atteint ses 20-25%. Et donc il faut aussi rester optimiste et regarder les 75-80% des gens qui ne versent pas là-dedans.
Il y a que deux partis en fait populistes qui veulent vraiment sortir de l'Union européenne, c'est le Front National et le PVV néerlandais.
Voilà.
C'est les deux seuls. Même Pepe Grillo lui veut sortir de l'euro mais rester dans l'Union européenne.
Il a failli aller failli aller chez les libéraux.
Et le Front National c'était très fluctuant.
Oui. Ça a été fluctuant, mais maintenant, ils sont sur une ligne très dure, sur le Brexit, etc. Maintenant, ils sont sur ces lignes-là. Et ils sont en train de se suicider, effectivement. Quand on regarde les sondages...
Tant qu'ils n'auront pas fait la pro à Philippot.
Oui, voilà. Parce que quand on regarde les sondages, ce qui est très fascinant dans les sondages actuellement, c'est que le Front National plafonne à 25%. Il n'y a aucune dynamique électorale qui s'est mise en branle, à la différence d'autres partis.
Alors, toujours en Allemagne, Eric, où on parle du Parlement européen et de l'élection du nouveau président du Parlement européen, Antonio Tajani, l'ancien porte-parole de Silvio Berlusconi, tous derrière Antonio Tajani.
Tous derrière, avec vraiment un point d'interrogation selon Die Welt, mais qui justement, le journal allemand s'interroge sur ces nouvelles alliances et sur le danger d'ailleurs que pour présenter cette élection et sur le besoin des sociodémocrates de se retrouver. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que, bon voilà, Antonio Tajani a été élu, il est élu pour 2 ans et demi, il a été choisi parmi 6 candidats, il va falloir travailler avec lui, nous dit le journal. C'est vrai que cette élection ne va pas sans causer de sérieux dégâts collatéraux qui pourraient être lourds de conséquences pour l'Union, hein, remarque le journaliste. Pourquoi ? Parce que cette élection, elle s'est faite à travers une alliance nébuleuse qui rassemble à la fois des conservateurs, des populistes de droite et des partis eurosceptiques. Et donc, pour la première fois, en tout cas depuis longtemps, on n'a pas vu cette alliance traditionnelle entre d'un côté eh bien, les gens du PPE et de l'autre les sociaux-démocrates. Cette alliance est brisée, nous explique le journaliste. Et c'est justement de ça dont il va falloir se relever, parce que sinon, eh bien, on risque, il sera déjà nettement plus difficile de légiférer en Europe. Et les partis populistes, nous prévient le journal, qui seront plus sollicités que jamais pour dégager des majorités, devraient y gagner une influence grandissante. Alors gare à cela, et il est temps c'est un appel hein, vraiment aux sociodémocrates, de se relever et d'accepter la coopération.
Jean Quatremer, juste une précision, c'est intéressant parce que Antonio Tajani, vous parliez tout à l'heure de Galileo, vous parliez d'OHB, la société allemande qui a récupéré le contrat, c'était lui, à l'époque où il était commissaire européen, qui avait mis ça en œuvre. Vous aviez une question pour Jérôme Lavrieux.
Parce que, on sait que Tajani a quand même énormément de casseroles aux fesses, notamment le Dieselgate, hein, qui risque de montrer qu'il avait des informations et qu'il n'en a pas fait bon usage.
En tant que commissaire européen en charge de l'industrie.
Et donc il a
avant même des de devenir député européen.
Voilà, et donc il avait des informations, donc il peut être éclaboussé. Mais comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à pousser la candidature à Alain Lamassoure ? Vous êtes battu entre vous au sein de la délégation française LR, vous êtes battu vis-à-vis avec vos partenaires, parce que là, vous avez quelqu'un qui est sur les questions européennes depuis 25 ans, qui n'a aucune tâche à son CV, qui ne s'est pas enrichi, qui n'est pas, voilà, quelqu'un de propre, de nickel,
Jean,
etc.
Vous posez la question à Jérôme Lavrieux.
Oui, je sais.
Fait dégager de la délégation UMP par Alain Lamassoure.
Oui, je sais bien.
Non.
C'est comme ça que j'avais compris.
Moi. Alain Lamassoure a voté pour que je reste dans la délégation française.
Il faut mettre vos
fiches à jour. Objectivement,
ça
n'a strictement aucune importance. C'est parce qu'en fait, c'était des élections à plusieurs tours. Et on doit, au sein de son propre groupe, dégager qui sera le candidat. Voilà. Et il y a eu une primaire qui a été organisée au sein du groupe. Et certaines délégations
PPE, donc, les
du groupe PPE, certaines délégations d'autres pays se sont alliées et ont mis M. Tajani en tête au premier tour. Il n'y a pas eu de second tour.
Avec trois fois plus
puisque,
de
votes. Puisque l'ensemble des autres candidats ont décidé de se retirer.
Comment
et Alain Lamassoure a soutenu la candidature. Je n'en sais rien. Il y a une campagne électorale qui a été faite. Les Allemands ont joué un jeu. Les Espagnols ont joué un jeu. Les Polonais ont joué un jeu. Et comme numériquement, nous ne sommes pas les plus forts, ben nous n'étions pas les maîtres du jeu. Voilà.
Florence,
après,
un mot.
J'ai un petit commentaire sur le résultat final de
Jérôme
tout ça.
Lavrieux.
Ceux qui ont le plus mal joué dans cette histoire, ce sont les socialistes. Parce que, contrairement à ce qui s'est fait pendant des décennies, ils ont montré qu'ils n'étaient pas indispensables à la constitution d'une majorité.
Et une conséquence rigolote.
Et donc, dans 2 ans et demi, il y aura à nouveau un problème pour eux. il y aura un nouveau problème pour
c'était
eux.
Une vision
et c'est aussi se mettre dans la main des petits groupes qui peuvent être les faiseurs de
violence. Une conséquence qui pourrait être assez amusante, c'est comme on a un Italien de droite à la tête du PPE, il va falloir mettre à la tête du Parlement, pardonnez-moi. Il va falloir mettre à un moment donné un social-démocrate quelque part. Le poste du président du Conseil, Donald Tusk.
Je sens qu'on va parler de François Hollande.
François Hollande a dit ça l'intérêt.
Voilà.
Un Français socialiste à la tête du Conseil européen.
Pas François Hollande. Non, pas François Hollande.
Pardonnez-moi, mais tout le monde ne voit pas.
Et donc, si ça avait été un Français président du Parlement européen, Hollande n'avait aucune chance.
C'est de voir que Martin Schulz, le président sortant du Parlement européen, là vraiment à Berlin, visiblement, aurait
c'est pas une surprise, quand même.
Des chances, enfin en tout cas de plus en plus de chances de concurrencer Angela Merkel dans les prochaines élections en Allemagne. Oui. Merci Jérôme Lavrieux, merci Charles de Marcy de la Fondation Robert Schuman, merci Jean Quatremer de Libération, merci Florence Autret de La Tribune, merci aux équipes du Parlement européen qui ont mis en son, en image cette émission, merci Eric Scholl évidemment pour votre revue de presse.
Étonnante
et forte, le ton monte grâce à vous sur ce plateau. Merci Alexandre Rougier qui a préparé cette émission et d'Hélène Leroux. À la semaine prochaine, je vous laisse entre les mains de mes consoeurs et confrères de BFM Business. À bientôt.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.